France Info.
Bonjour Tristan.
Bonjour.
Bonjour Tristan Stan Niwarn. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour Mathmata.
Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé.
Quand on dit Mathmata, on pense à des titres forts qui ont traversé le temps. Je pense aux Moutons, à Emma, à l'Apologie. Ça fait 30 ans que vous nous accompagnez avec souvent le point levé et une envie d'en découdre. Vous êtes en effet ce groupe de rock folk celtique, on va dire, 100% français et brestois. Ce groupe est né en 95, donc oui, il y a 30 ans, les calculs sont bons. Et force est de constater que le temps passe vite, très vite, trop vite même, semble-t-il. Votre arrivée sur le devant de la scène a été fracassante avec un album, votre premier, La Wash, sorti 3 ans plus tard, qui s'est écoulé à plus 800 000 exemplaires. Vous étiez né et fait pour durer dans cette décision que vous avez prise de monter sur scène, donc finalement, même si vous avez décidé de vous séparer 13 ans plus tard, ce qu'on n'a pas trop compris d'ailleurs, ça a plongé les fans dans un profond désespoir. Mais vous êtes revenu sur votre décision et bien vous en a pris. Là, vous fêtez vos 30 ans de carrière. Ce sera le 11 octobre prochain à l'Accor Arena. À l'époque, on disait Bercy, donc j'imagine que c'est pas très simple. Le POPB, très exactement. C'est un lieu qui était difficilement atteignable pour un groupe, notamment un groupe de rock. Quel effet ça fait de monter sur scène et qui plus est de fêter vos 30 ans de carrière?
Je pense qu'à la fin de nos tout premiers concerts dans un bar, quand on a vraiment démarré le groupe, je pense qu'on a dû se dire à la fin du concert, bon, un jour on jouera à Bercy, mais pour déconner. Quoi. Et puis il y a quelques mois maintenant, non, même un ou deux ans, dans notre entourage, on vous a demandé, alors, vous voulez faire quoi pour les 30 ans? Et puis, on dit, bah, Bercy, en déconnant, mais à moitié, en fait. Voilà. Et puis, bah, finalement, on y sera.
Benoît?
Je crois que ce qui me fait le plus d'effet, c'est de jouer pour nos 30 ans. Et de jouer à Bercy, même si Bercy, c'est une super salle. Et on est content parce qu'on l'a pas fait. On voit pas passer le temps, en fait. Ça fait tout drôle quand d'un coup, on s'aperçoit que le groupe a 30 ans. Et alors qu'on est toujours dans l'action, on continue à faire des choses. On se préoccupe pas de ça, en fait.
Cette histoire, c'est un peu celle d'un conte de fées, j'ai l'impression. D'amis qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de jouer. Vous êtes retrouvés, vous étiez deux, puis quatre. Enfin, voilà, ça s'est construit assez facilement. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez été vous-même dépassé par le succès que vous avez eu très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu une répercussion d'abord à Brest, ensuite en Bretagne, et ensuite dans toute la France, et ensuite en dehors des frontières.
Ça a été assez rapide, mais on n'a pas brûlé d'étapes non plus, parce qu'on a énormément joué. La première année, on a dû faire 180 concerts, un truc comme ça. Bon, on appelait ça concert. On ne devait pas jouer très très bien, mais on a appris sur le tas, en fait. On répétait devant les gens. Donc on n'a pas vraiment brûlé d'étapes. On a fait ce qu'il fallait. C'est vrai que ça a été assez rapide. Et on a tous appris ensemble, aussi bien dans le groupe, les musiciens, que dans toute l'équipe qui nous entourait. On était tous novices dans notre activité. Et puis voilà, on a appris. On a appris, on apprend encore, j'espère.
Benoît, ce qui détonne, c'est votre capacité à garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que vous n'avez jamais changé, que ce soit votre entourage, mais sur scène, l'attitude, elle a toujours été la même, et le son a toujours été le même, et cette envie aussi. Quand on vous regarde encore aujourd'hui, vous avez les yeux qui brillent, presque.
Oui, oui, on fait partie des groupes qui ont commencé, comme le disait Stan, dans les bars, autodidactes, et puis avec cette envie, dès le début, de jouer devant les gens. Qu'il soit 10 ou bien plus. Puis on n'a jamais, entre guillemets, travaillé quelconque posture ou on est resté dans l'essence, on va dire, de ce qui est un jeune groupe de rock. Oui, alors bon, on va en plaider.
Dans la tête, on est resté jeune, en fait.
Voilà, on est resté sur l'essentiel, si je puis dire. Et puis on aime bien ça, le fait de pouvoir jouer comme si on était dans un bar, dans des salles immenses ou des festivals avec 50 000 personnes.
On a toujours fait même sur une grosse scène, ce qu'on fait dans un bar, mais sauf qu'on nous a posé là, en fait. Donc on est un groupe de rock, ça reste un concert de rock, en fait. Voilà.
Est-ce que c'est pas ce qui vous a rendu plus fort, finalement, de démarrer dans ces bars? Parce que ce son-là, cette espèce de tête-à-tête avec le public, cette façon d'échanger, d'être dans cette adrénaline et énergie, finalement, c'est ce qu'on retrouve sur l'intégralité de vos albums.
On a appris à jouer, mais on a aussi appris à répondre aux gens. Dans les bars, là, quand il y a quelqu'un qui t'interpelle, il est juste devant toi. Donc ça, c'est tout un apprentissage aussi de leur répondre et de, voilà, d'avoir du répondant sur scène, on va dire.
Mathmata, c'est d'abord un groupe de scène, ça c'est sûr. Ouais. Je crois que vous êtes marqué au fer rouge. D'ailleurs, vous le revendiquez totalement. C'est ce que vous aimez faire. Les albums sont un peu des prétextes pour aller rencontrer encore le public.
Les deux sont bien. C'est deux démarches complètement différentes, mais on a commencé sur scène. Et oui, c'est vrai que la scène, c'est important. C'est important de jouer devant les gens. C'est concret, ça. Quand on enregistre un disque, on ne sait pas très bien qui va l'écouter. Quand on est sur scène, voilà, ils sont là. On est là, ça tombe bien.
Quand vos premiers titres sont sortis, ce qui est ressorti tout de suite, c'est que vous êtes devenu un peu des porte-drapeaux. Même les étudiants se disaient, les textes parlent de nous, vous parlez des lieux en Bretagne, vous avez fait une sorte de gros plan finalement, sur des endroits très importants, et surtout vous racontez le quotidien des gens en vous intéressant toujours à la société, ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais.
On raconte le monde qui nous entoure. Au début, ce monde-là, c'était le champ de vision était plus réduit parce qu'on était à Brest, on parlait de Brest, on parlait des quartiers de Brest. On avait des textes qui étaient ouais potache étudiant, bah parce qu'on avait l'âge et tout ça. Et puis à force de tourner, d'aller voir un peu ailleurs, bah notre champ de vision s'est élargi. On a continué à écrire, à observer ce qui nous entourait. Et puis c'est toujours ce qu'on fait. On est un groupe concerné, on va dire voilà. Nous avons souvent, alors vous êtes un groupe engagé, dit non engagé, non concerné, voilà, par le monde qui nous entoure. Donc il y a plein de choses à dire.
Cette image de groupe concerné, Benoît, c'est aussi l'essence même de l'écriture, de ce qui vous pousse à aborder tel ou tel sujet.
Pour ma part, j'écris pas les textes.
Tu ne les lis pas non plus d'ailleurs.
Je les lis pas non plus.
Tu ne les chantes pas non plus.
Après, moi, ça me semble assez logique. On ne peut pas ignorer dans le monde dans lequel on vit. Donc, forcément, même si on est dans notre bulle de musicien, entre guillemets, on fait avec ce qu'on sait faire, mais tout en observant tout ce qui se passe autour. Et on est forcément imprégné par ça ou immergé là-dedans. Donc, oui, c'est dans l'essence, je pense. Hein.
Bon, dur que, ouais, au bout d'un certain temps, le nombril n'est plus un sujet assez intéressant pour continuer à
oui,
faire des
chansons. Il n'a jamais
été.
Voilà.
Au début, oui, si, ça, voilà. Enfin, dans les crises d'adolescence et tout ça, c'est bien, on peut le faire. Non, mais ouais, on s'intéresse, oui, à l'évolution du monde et Dieu sait qu'il a changé en 30 ans. Donc, il y a toujours des nouveaux sujets à aborder. C'est pas près d'être fini d'ailleurs. Donc,
en 96, il va y avoir un déclic. Enfin, en tout cas, un moment assez heureux. Le chanteur de FFF tombe malade. Du coup,
vous le malheur des uns.
Ouais, le bonheur des autres. Et ça va être une révélation pour vous, ce moment-là. Parce alors, que vous allez vous retrouver face à leur public.
Je peux dire maintenant que t'as écouté une saloperie dans son verre.
Ouais, non, même pas. Non, c'est pas la grippe de Marco Prince qui a été une révélation pour nous. Non, c'était notre première scène, vraie scène. On avait été invité par une école d'ingénieurs, en fait, pour faire le gala étudiant de l'année. Ils voulaient un groupe brestois en première partie d'FFF. Nous, on avait 6 mois, quoi. Donc, on nous avait demandé de faire la première partie. On s'est dit, waouh, première partie d'FFF sur une vraie scène. On avait 32 minutes de set. On a joué 32 minutes.
C'était déjà énorme. Hein.
Oui, bah, on a essayé de faire au max, quoi. On a joué 32 minutes. Et puis après, il y a FFF. Et bon, bah, malheureusement pour lui, Marco Prince était malade ce jour-là, donc il n'a pas pu finir le concert. Grosso modo, on a joué en autant de temps qu'FFF. Donc on a pu avoir les honneurs de la presse, en fait, locale. Et ça nous a fait un petit peu connaître auprès des gens, à Brest en tout cas.
Mais ça montre à quel point, déjà sur scène, vous étiez marqué et à quel point vous aviez ce côté rassembleur.
Oui, alors là, c'était quand même les toutes premières scènes. Je ne sais pas trop. Heureusement que ça n'a pas été filmé d'ailleurs. Donc là, on était vraiment débutés, quoi. Et c'est vrai que, enfin, en plus, on jouait avant FFF, qui étaient des bêtes de scène, quoi. Mais on était sympas. Les gens nous trouvaient sympas, voilà. Donc, ils sont revenus après.
Il y a eu des titres qui ont tapé très fort. En 98, effectivement, La Wash sort. 800 000 exemplaires vendus. Vous avez dit à un moment donné que vous pensiez que l'album était né au bon moment. En même temps, c'est cette énergie, cette fusion avec le public qui a marqué définitivement votre entrée dans la cour des grands.
Il y a plein de paramètres, en fait. Voilà. Un disque marche, bon, pour qu'il soit pas trop mal déjà, mais ouais, il y a une histoire d'espace et de temps. Il faut au bon endroit, au bon moment, et c'est vrai que en 98, c'était la fin des boys bands déjà, donc les gens avaient envie d'autre chose, d'une musique un peu plus, on va dire, authentique, un peu plus live. Quand on leur parle de choses cool, puis 98, c'est la Coupe du Monde, les gens sont euphoriques, et nous, on débarque. On a sorti l'album la veille du début de la Coupe du Monde, parce qu'on avait dit qu'on allait le sortir avant. Ce qu'on a fait. Et c'est vrai que cet été-là, en 98, voilà, les gens étaient euphoriques. La France gagne la Coupe du Monde et nous, on arrive avec des chansons qui collaient à cet état d'esprit-là. Donc, ouais, on était au bon endroit, au bon moment.
Avec aussi une sonorité celtique hein, qui a marqué aussi à ces moments-là où on attendait un son rock, on avait l'impression d'être un peu perdu.
Ouais, bah.
D'avoir un peu perdu, pardon.
Oui, le rock en France ne partait plus forcément de Paris, en fait. Voilà, il y avait plein d'endroits en France avec plein de groupes voilà, qui arrivaient, mais qui ne passaient pas forcément par Paris. Bah, nous, on, dans notre Finistère, eh ben, on faisait notre rock dans le coin, parce que Brest est une ville rock à la base. Voilà, donc ça a toujours été le cas. Et bon, bah, là, on a franchi les frontières, on va dire. Voilà.
Beaucoup disent, Benoît, que Matmata a contribué dans les années 90 à perpétuer ce son celtique.
Bah, ça, c'est assez flatteur. Hein. Ça n'a jamais été le but, d'ailleurs, mais effectivement, si c'est le cas, bah, je trouve ça plutôt cool.
Stan ?
On a une relation assez particulière, quand même, avec la musique celtique ou bretonne. C'est qu'on n'a jamais voulu être des porte-drapeaux, nous, on considérait qu'on faisait du rock. Et à l'époque, quand même, ça a posé des problèmes pour certains, ce qui nous trouvait. Alors, il y en a qui disaient qu'on martyrisait la culture bretonne. Et on était un peu le cul entre deux chaises, en fait. On était trop celtique pour certains et pas assez pour d'autres. Mais bon, voilà, on a tracé, on a fait notre truc, mais bon. On restait quand même un groupe de rock, en fait. Donc voilà, avec les années, maintenant, je crois que c'est, voilà, la pilule est passée.
Certains disent Matmata, c'est un groupe un peu indomptable. Vous vous situez comment dans cette appellation qui n'est pas d'origine contrôlée? Mais je pense notamment à ce qui s'est passé avec l'apologie. Vous avez été condamné à verser de l'argent, ouais, parce qu'en gros, on vous taxait d'inciter les jeunes, enfin en tout cas les gens, à fumer du cannabis. Comment vous l'avez vécu ça? Derrière, ça donnait la chanson quelques sourires.
Bon, c'est une perte de temps surtout, quoi. Voilà, c'est un peu ridicule. Donc voilà, il y a eu un an et demi d'instruction pour rien au final. Donc bon, après, ça nous a fait de la pub, hein, mais bon, voilà. Là, on se rend compte que 20 ans ou 25 ans après, en fait, le débat n'a pas changé et que c'est toujours un sujet. On en est même à se demander si on ne serait pas contre la légalisation, parce que si ça arrive un jour, nous, on perd notre fonds de commerce. Donc,
c'est en passe de passer comme ça. Hein.
Bah, on attend toujours.
Donc, pas mal, non, le CBD,
ouais,
un peu,
ouais,
partout.
Ça reste anecdotique, parce que ouais, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de la musique. Et, mais bon, ça ne nous a pas empêchés. Donc, ouais.
Vous gardez quoi de ces 30 ans qui sont passés, a priori, très très vite?
Une indépendance, déjà, qu'on a toujours eue. Une autonomie, une liberté artistique absolue, j'ai envie de dire. Et ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie quand on peut faire ce qu'on veut pendant aussi longtemps? Ça, c'est un vrai luxe. Voilà. Après, il y a certainement d'autres choses. Puis c'est pas fini. Donc en fait, j'arrive pas à me dire ça fait 30 ans en regardant en arrière. En fait, pour moi, c'est juste une étape. Donc,
en plus, on a la chance de voir un public qui s'enrichit. Voilà. Notre public d'il y a 30 ans, il est toujours là. Et puis, les dernières tournées qu'on a fait, là, on voit des 15-20 ans au premier rang. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font? D'où ils sortent ceux-là, en fait? Et ça, c'est un luxe de. Voilà. Et les anciens, les vétérans, ils sont un peu plus loin, ils sont plus au premier rang. Parce que bon, ils ont 40 ans maintenant. Et puis, il y a des nouvelles générations, ça se renouvelle, en fait. Et on se rend compte, ouais, nos chansons, elles ont traversé les générations. Et ça, c'est un luxe.
Un an de travail pour ce spectacle-là, événement.
C'est beaucoup trop.
Pas tous les jours non plus, hein.
L'idée, c'était effectivement d'offrir quelque chose d'éphémère, d'instantané,
oui, d'unique.
Vous appréhendez ou pas de monter sur scène?
C'est pas de l'appréhension, mais bon, voilà, ça commence à monter, on va dire. Voilà, ouais. Parce que on va proposer, ouais, un concert un peu particulier, unique, voilà, qu'on ne fera qu'une fois. On essaye de faire en sorte que ce soit un concert de Matmata que les gens n'ont jamais vu. En restant un concert de rock quand même, parce qu'on est un groupe de rock, mais c'est vrai que ouais, ça commence à monter là, tranquillement.
Bah, le track se mettra en place au bon moment et puis on fera avec.
Merci beaucoup en tout cas, Stan. Merci et Benoît, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Le concert, c'est le 11 octobre à l'Accor Arena. Et puis après, je rappelle qu'il y a des disques, hein, qui sont disponibles, miscellanée, bissextile. Merci beaucoup, en tout cas,
merci
d'être passé
vous,
dans
merci.
Mon édition France Info.
Je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas une cycliste, je ne suis pas une catholique, je ne suis pas une footballiste.
samedi.